Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés en criant, faut manger, après travailler.
Bonsoir.
Salut. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le Canu Info du lundi soir sur Radio Canu, confiné mais toujours déterminé. On va commencer à l'international par une interview avec Muriel qui vit au Pérou, qui va nous raconter un peu comment se passe le confinement et la pandémie là-bas. Ensuite, on parlera de la surmortalité des Noirs aux États-Unis, du Covid, puis on fera une autre interview, cette fois avec Marie, qui vit en Espagne, qui va nous raconter un peu la situation. Et on parlera ensuite du plan de soutien européen de 500 milliards, qui va malheureusement plutôt se faire dans l'intérêt des marchés financiers.
Et au national, on commencera tout d'abord par un sujet sur la remise en cause des détentions provisoires par le gouvernement. Ensuite, dans la même veine, on parlera de deux cas de violence policière en ces temps de confinement. Puis, on partira sur note un peu plus joyeuse, la manière dont les salariés d'un McDonald's à Marseille sont à réapproprier leur outil de travail pour faire des distributions de colis alimentaires. Ensuite, on reviendra à la stratégie gouvernementale et notamment la manière dont ils se préparent à être massivement poursuivis en justice dans l'après-crise. Ensuite, on enchaînera sur la grève des éboueurs à Poitiers et pour terminer, on prendra quelques nouvelles de la situation à la poste.
Et on finira au local avec un entretien avec un infirmier psy à Saint-Jean-de-Dieu dans une unité qui est réservée aux patients de l'hôpital atteint du Covid-19. Et on écoutera aussi un autre entretien avec cette fois-ci un membre d'une équipe médico-sociale qui nous parlera des difficultés qu'il rencontre depuis le début de la crise.
On commence donc à l'international avec une interview qui nous vient en direct du Pérou.
Oui, j'ai eu l'occasion de pouvoir poser quelques questions à une amie péruvienne qui vit en France et qui s'est retrouvée confinée au Pérou. On écoute tout de suite cette interview. Est-ce que tu peux me parler des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie ?
Bah, du coup, nous, on a commencé le confinement le 16 mars avec moins de 100 cas de coronavirus. Maintenant, on est à 6848 cas et à 181 morts. Donc, le 16 mars, c'était opérationnel la fermeture des frontières. On a eu les mesures de confinement. Et quand on parle de confinement ici, on parle d'un confinement total, quoi. Dès le début, ça a été un confinement avec juste le travail essentiel qui est gardé et interdiction de sortie pour tout le monde. Et après, c'est devenu de plus en plus strict, en fait. Quand même, aussi, une chose que j'ai oublié de te dire, c'est que, par exemple, le gouvernement, il a congelé les dettes Il a congelé les dettes sans intérêt, il a congelé les factures d'eau, d'électricité, de téléphone, pas les loyers, mais en tout cas, eau, électricité, tout ça, c'est congelé. On n'a pas, on n'est pas obligé de les payer et ça va être genre fractionné pour l'année prochaine ou des trucs comme ça, quoi. Que le problème aussi, c'est qu'on n'a pas la même situation dans le système de santé que les pays du Nord. Donc en vérité, nous, si jamais ça atteint le niveau que ça atteint en Europe, juste, ça va être le carnage. Après ici, le problème avec les mesures, c'est plus un peu un tournant autoritaire et le pouvoir qu'on donne aux forces armées en connaissant l'histoire du Pérou aussi, que c'est un pays qui a eu quand même 20 années de violence interne entre les années 80 et les années 2000, donc c'est assez récent quand même. Au début du confinement, en fait, il n'y avait pas de couvre-feu. Ensuite, ils ont mis un couvre-feu à 20h, puis ils l'ont prolongé à 18h et certains endroits à 16h. Et en même temps, ils ont dit, mais en fait, l'armée, elle a le droit de tirer sur les gens si c'est pour légitime défense ou pour des cas d'extrême nécessité et qu'il n'aurait aucune responsabilité pénale, en fait. Déjà, il y a quelqu'un qui, hier, justement, il y a eu une dénonciation d'une organisation de droits humains qui dit qu'il y a un monsieur qui est sorti, qui n'a pas respecté le confinement, qui est sorti acheter du pain et il s'est fait arrêter par la police. Il est mort roué de coups et qu'ils ont catalogué sa mort comme mort du coronavirus.
Et il y a des gens qui sont en télétravail ?
Oui, il y a du télétravail pour ceux et celles qui peuvent faire ça, mais disons qu'au Pérou, ça ne correspond pas à une grosse partie de la population. Ici, le 70% de la population, c'est du travail informel.
Et du coup, c'est quoi les secteurs essentiels au Pérou ?
C'est vraiment juste les secteurs qui sont liés à l'alimentation, la santé, les banques et... Très étrangement, même si c'est pas assumé, c'est pas dit à voix haute, etc., il y a les mines, tout ce qui est les mines qui continuent à travailler. Et voilà, normalement, c'est vraiment très strict, en fait, les secteurs essentiels. Et par exemple, les livreurs ici, tout ce qui est les sortes de Deliveroo ou les Uber Eats, etc., du Pérou, ils ne fonctionnent plus. Il y en a un seul qui fonctionne, qui est Glovo. Tous les travailleurs, la majorité de travailleurs des libéraux du Pérou, on va dire, c'est des travailleurs vénézuéliens pour la plupart, c'est l'immigration vénézuélienne. Et c'est, en plus, c'est la population qui a le moins d'aide aussi. Le Pérou a complètement abandonné cette population-là et ça correspond pour le coup à la plupart des gens qui travaillent dans les trucs de livraison.
Il y a des mesures qui ont été mises en place pour les plus précaires ?
Déjà, ils ont commencé, une des premières mesures qu'ils ont annoncées, c'est de dire que pour que les gens puissent tenir le confinement, les populations d'extrême pauvreté, ils vont avoir 380 soles, que ça correspond genre à 108 dollars. C'est en fait la moitié d'un SMIC, un peu moins. Et aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné de l'argent aux municipalités pour qu'elles achètent des denrées alimentaires qu'ils vont répartir dans les endroits les plus pauvres. Bon, on connaît le Pérou, on sait très bien que c'est un pays qui a la plupart de ses anciens présidents en prison, qui sont passés par la prison. Celui qui en a échappé, c'est parce qu'il s'est suicidé. Donc, on sait très bien que c'est un pays hyper corrupt. Donc, quand on dit qu'on va donner de l'argent aux municipalités, c'est quoi la garantie qu'on a pour que l'argent soit vraiment donné aux familles en grande nécessité ?
Et est-ce qu'il y a des réseaux de solidarité qui se sont mis en place ?
Il y a plein de réseaux militants et surtout, au Pérou, c'est quand même, il y a une grosse tradition d'associations de quartier, de cantines communautaires populaires qui viennent remplacer ce que l'État ne fait pas, quoi, et qui font soit des cantines pour donner à manger aux gens, soit des endroits où ils peuvent déposer des donations et récupérer des donations.
Est-ce que tu peux me raconter un peu cette histoire de confinement non mixte ?
C'était affreux. Ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que là, ils l'ont annulé. Mais pendant le temps que ça a duré, que je pense que ça a duré une semaine ou 10 jours, c'était la catastrophe, parce que forcément, c'est les femmes qui sont celles qui font les courses en général, c'est elles qui font la gestion de tout ce qui est la bouffe, la santé, etc. Donc en vérité, c'était déjà elles qui sortaient un max. Et là, on se retrouve dans des situations où, en vrai, il y a des queues et des risques de contamination qui étaient énormes. Et en vérité, c'était juste une exposition des femmes qui sont déjà en première ligne dans tout ce qui est le combat contre le coronavirus, dans tous les plans. Et en plus de ça, leur ajouter cette restriction par genre, c'était affreux. Et qu'il y a énormément de femmes trans qui ont été discriminées, et humiliées et violentées par les forces de l'ordre.
Et comment ça se passe pour les populations indigènes ?
Les populations indigènes, elles sont hyper exposées. C'est une population très vulnérable par rapport au coronavirus. elles ont lancé des communiqués et elles essayent de se prononcer là-dessus, surtout des femmes d'ailleurs, parce que c'est une organisation nationale des femmes indigènes des Andes et de l'Amazonie du Pérou qui se sont prononcées pour dire qu'en vérité, voilà, il y a zéro système de santé de base, que déjà elles ont une mortalité très, très forte pour des maladies dites banales, quoi. Elles ont déjà des problèmes aussi à cause de la pollution de leurs forêts, de leurs rivières, de leurs lacs, de la perte de biodiversité, des vols de leurs terres, et que en plus l'activité économique de leur territoire c'est en danger, et que malgré le confinement les mines restent opérationnelles et qu'il y a déjà des mineurs qui sont infectés qui peuvent ramener le coronavirus dans leur communauté. Et ils dénoncent aussi le fait qu'elles ont droit à aucune aide de l'État, pas de denrées alimentaires, pas le 380 soles, rien du tout. Et il faut savoir aussi que c'est des communautés qui sont hyper loin des postes de santé. Tu peux marcher 5 jours pour arriver à une poste de santé, je te dis même pas un hôpital, un respirateur ou quoi, une poste de santé toute pourrie.
Eh ben merci beaucoup et puis bon courage pour la suite.
Toujours à l'international, on enchaîne avec un sujet sur la surmortalité des Noirs aux États-Unis.
Dans la catégorie « J'ai nié la crise épidémique jusqu'au bout », Trump remporte la triste palme d'or. Or, ce sont les Afro-Américains déjà largement discriminés qui pâtissent le plus de cette non-gestion criminelle de l'État américain. En effet, et sans surprise, la catastrophe sanitaire, sociale et économique en cours touche le plus la population afro-américaine, en particulier dans les États du Sud, mais aussi de Washington, de New York, du Michigan, où la crise est la plus forte. Cette épidémie, elle accentue encore plus les inégalités raciales et sociales du pays. À Chicago, par exemple, 70% des personnes décédées sont noires, alors qu'ils et elles représentent moins d'un tiers des habitants de la ville. De la même manière, le virus frappe violemment certains États du Sud, comme la Louisiane ou la Géorgie, qui sont des États déjà pauvres, et en particulier les zones rurales où les hôpitaux sont rares et sous-équipés. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que la pandémie fragilise particulièrement les plus pauvres et les détenus, et qu'aux États-Unis, la ségrégation socio-spatiale structure toujours largement la société américaine. Les Américains noirs représentent donc une population vulnérable qui affiche des comorbidités aggravant les risques liés au virus. Les Afro-Américains aux États-Unis sont en moyenne plus pauvres, ils ont donc moins accès aux assurances santé, habitent des quartiers où l'habitation est beaucoup plus dense et doivent faire des trajets beaucoup plus longs pour aller travailler et pour assurer un minimum de revenus afin de pouvoir continuer à se nourrir. La gravité de la crise s'annonce terrible aux États-Unis, sans doute du jamais vu depuis les années 30. En 3 semaines, il faut dire que 60 millions d'Américains ont pointé au chômage, ce qui va donc priver des milliers d'Américains de couverture sociale, puisque 150 millions d'entre eux bénéficient d'une assurance santé qui est financée par l'employeur. Bref, malgré les 200 milliards de dollars qui ont été débloqués par Trump pour relancer l'économie, malgré la distribution de chèques aux habitants, les effets de la crise vont donc être terribles et ne vont faire qu'accentuer les inégalités socio-spatiales et raciales dans le pays.
Alors pour continuer notre tour d'horizon à l'international, on écoute tout de suite une interview qui nous vient tout droit d'Espagne.
Oui, j'ai pu poser quelques questions à Marie qui habite à Madrid en Espagne, le deuxième pays le plus touché par le Covid-19 en Europe, avec plus de 17 000 morts aujourd'hui, mais qui envisage un déconfinement qui commence cette semaine. Salut Marie, est-ce que tu peux nous expliquer où ça en est le confinement chez toi ?
Ben, en Espagne, on espère un peu quand même que pouvoir aller ressortir un peu quoi d'ici 2 semaines, mais aller se promener parce que là on n'a même pas le droit en fait. Donc c'est...
Ah ouais ?
C'est vachement pesant quoi. Ouais, on a juste le droit d'aller faire des courses et d'aller à la pharmacie. Ils mettent des amendes injustifiées et elles sont très fortes, très hautes les amendes ici. Donc on a un peu l'impression qu'ils cherchent à faire de la thune comme ça quoi.
C'est combien genre les amendes ?
Bah, ça peut aller jusqu'à 600 euros. Après, je crois que l'amende de base, c'est 100 euros, un peu comme en France, hein. Peut-être un peu moins.
Tu peux me réexpliquer la chronologie des mesures de confinement et tout ?
Ouais, du coup, moi, ma chronologie, ça part du 8 mars, parce que le week-end là, on était en manifestation, et c'était le dimanche, et le lundi, en fait, ils ont commencé à parler d'un confinement très strict, et le confinement strict a commencé le lundi 16, vraiment. Pendant 2 semaines, ils ont encore laissé les travailleurs non essentiels qui pouvaient pas être en télétravail, aller au travail. Et depuis 2 semaines, ces gens-là n'ont plus le droit d'aller travailler. Et là, à partir de lundi prochain, ils réouvrent un petit peu l'économie. Demain, certaines personnes recommencent à travailler, de demain.
Okay,
des secteurs non essentiels.
Du coup, il y a des mesures de protection pour la population en général, pour les gens dans les entreprises non essentielles, des masques, des trucs comme ça.
Non, c'est la cata, non, il n'y a rien. Enfin, du coup, il n'y a pas assez de masques, de toute façon, pour le personnel soignant. Donc, non. Après, là, ils ont commencé une campagne, je crois que j'ai dit la même chose en France, mais d'inciter les gens à se faire des masques eux-mêmes à la maison, en fait, en prévision du déconfinement pour plus de personnes, en fait, comme ça, soit bénévolement. Parce qu'ils parlent d'imposer le port du masque pour tout le monde, mais il n'y en a pas du tout. Donc, on n'en trouve plus depuis... franchement, depuis la semaine avant les mesures de confinement. Quoi.
Et moi, j'ai lu rapidement un article qui disait qu'il y avait une nationalisation des hôpitaux privés. C'est vrai, ça ?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la... Enfin, du coup, le système de santé en Espagne a été énormément privatisé depuis la crise économique, notamment. C'est des gouvernements de droite, essentiellement, mais un peu socialistes aussi. Le secteur privé qui est complètement majoritaire et notamment dans les grandes villes comme Madrid et Barcelone, au début, ils ont refusé de soigner les patients du coronavirus. Il y a des hôpitaux comme la, je crois que c'est ATIM et Hospitales, qui est incité par WhatsApp leurs salariés à prendre leurs vacances. Donc, ils ont été obligés, avec l'état d'alarme, de mettre en place l'état d'alarme, ça s'appelle comme ça ici, qui est prévu pour 15 jours dans la Constitution renouvelable, qui permet de réquisitionner les cliniques privées.
D'accord.
Et c'est ce qu'ils ont fait, du coup. Enfin, je sais pas, du coup, si on peut parler d'une nationalisation, mais ils ont réquisitionné les cliniques privées. Après, je sais pas dans quelle mesure ça a vraiment bien fonctionné, parce que, genre, 2-3 semaines après l'état, le premier truc d'état d'alarme, ils retrouvaient encore des respirateurs dans les cliniques privées à Madrid, qui étaient pas utilisés, tu vois, alors que c'est, un enfer. Et avant, du coup, de se servir des cliniques privées, ils ont déjà mis en place des hôtels, des hôpitaux de fortune dans des hôtels, et ils ont installé un grand hôpital militaire de Saint-Lili dans un centre d'exposition à Madrid. Et après, ils ont fait la même chose en Catalogne. La Catalogne est vachement touchée aussi, mais c'est venu 2 semaines après, en fait. D'abord, c'est Madrid et le Pays Basque.
Ok.
Et l'état d'alarme, c'est un truc, et du coup, ils l'ont décrété pour 15 jours, et après, tous les 15 jours, ils demandent à l'Assemblée de le prolonger. Et en fait, l'opposition, là, est déjà en train de dire qu'ils votent contre, parce que c'est un gouvernement de coalition socialiste Podemos, mais ils n'ont pas une majorité absolue. Et Vox et le Partido Popular, qui sont donc l'extrême droite et le parti de droite traditionnel, sont très mécontents des mesures économiques, en fait, qui sont prises, là, et notamment depuis qu'on parle du salaire minimum, enfin, non, du salaire universel, enfin, de mettre en place un revenu, temporaire, là, pour, le temps de la crise, ils commencent à voter contre, en fait, et à dire qu'ils vont peut-être même voter contre la prolongation de l'état d'alarme, enfin, ça pression, quoi.
Ok, et il y a d'autres mesures économiques de ce type qui sont en projet ?
Bah, du coup, les mesures qui sont débattues, c'est aussi le moratoire sur les loyers et cette histoire de revenus minimum, quoi. C'est pour la gestion de l'après-crise sanitaire et de, en fait, préparer finalement à la crise économique, parce que là, en fait, il y a eu une vague de chômage comme il n'y a jamais eu en Espagne. Je crois qu'en 2 semaines, c'était 900 000 emplois qui ont été détruits, mais ça compte que les emplois avec contrat et tout, et donc, du coup, c'est bien pire que... En tout cas, c'est vachement plus concentré pour l'instant que la crise de 2008-2009, quoi. Donc, les gens s'attendent à une crise économique de ouf, quoi.
Et du coup, au milieu de tout ça, est-ce qu'il y a un peu des réseaux de solidarité qui s'organisent ? Comment...
Ouais, bah carrément. Ça, c'est... Enfin, je pense aussi que depuis la crise, du coup, il y a 10 ans, les gens sont vachement organisés. Et du coup, il y a des réseaux qui sont mis en place tout de suite par quartier pour faire les courses aux personnes les plus vulnérables. Surtout ça, après des soutiens aussi. Il y a un réseau même qui a été lancé au niveau même de la mairie, je crois, de Madrid, de bénévoles qui peuvent faire du soutien téléphonique, psychologique, entre guillemets, enfin juste parler avec des gens qui seraient isolés, etc. Et après, au niveau des centres de migrants, il y a aussi des mouvements citoyens qui réclament de base aussi la fermeture des centres, qui s'appellent les CIE, Et il y en a un qui a fermé à côté de Madrid il y a pas très longtemps. Et les gens ont été accueillis ailleurs, etc. Quoi. Mais après, à ma connaissance, c'est le seul centre qui a fermé quoi, pour l'instant.
Ok, très bien. Et bah, on va te laisser. En tout cas, merci.
Bah, de rien.
De m'avoir.
Merci pour ta proposition.
En Europe toujours, on parle tout de suite du plan de soutien au capital.
Alors on va essayer de déchiffrer un peu ce que c'est que ce plan de soutien qui vient d'être validé par les 27 pays membres de l'Union européenne d'une hauteur de 500 milliards d'euros sur fond de rivalité interétatique, mais dans l'intérêt de quoi déjà? Des marchés financiers, bien sûr. Alors de toute façon, il faut partir du principe que le système capitaliste ne se laisse jamais abattre, qu'il a montré au cours de son histoire son extraordinaire capacité à absorber les chocs, les crises, de plus en plus fréquentes, engendrées par lui-même et par sa propre évolution. Plus les crises sont brutales, plus l'emprise du marché s'étend facilement. C'est ce que Naomi Klein appelait par exemple la stratégie du choc. La restructuration du capital va se faire aux dépens de l'immense majorité des habitants et habitantes de la planète, c'est-à-dire les exploités. Autant commencer dès maintenant à mettre tout le monde d'accord. Grosso modo, l'idée, c'est de n'accorder des lignes de crédit d'urgence aux pays touchés par l'épidémie qu'en contrepartie de réformes structurelles. Déjà vu, non? Alors développons. L'objectif, c'est rediriger les capitaux privés empruntés aux marchés financiers avec l'aval et la garantie des puissances publiques vers les entreprises et les économies les plus touchées. Officiellement, bien sûr, pour le bien-être des populations européennes. Trois organismes différents vont organiser et se partager ce nouveau gouffre à dette publique, la BEI, la Banque européenne d'investissement, la Commission européenne et le MES, le Mécanisme européen de stabilité. Alors très rapidement, la BEI, la Banque européenne d'investissement, c'est un organisme financier dont les actionnaires sont les États membres de l'Union européenne. C'est un outil public au service des capitaux privés et des marchés financiers, qui fait donc l'intermédiaire entre les marchés et la sphère industrielle et commerciale. La Commission européenne, est-ce qu'il y a vraiment besoin de la présenter? Allez, vite fait, c'est le véritable pouvoir européen qui, avec le FMI et la Banque centrale européenne, forme la Troïka. Ce sont sur ces injonctions que toutes les politiques d'austérité ont été appliquées en Europe depuis 2008. La Commission européenne a pour rôle de garantir les prêts auprès des marchés financiers. Le MES, le Mécanisme européen de stabilité, il a été créé en 2012 en réponse à la crise, notamment pour servir d'outil financier en cas de nouvelle crise. Donc, permettre aux États d'emprunter à des taux plus faibles que sur les marchés financiers, tout en empruntant lui-même parfois au marché. Il peut également fournir des prêts pour assurer la recapitalisation d'établissements bancaires, donc favoriser le transfert des dettes privées vers la dette publique comme ça s'est passé après 2008. En gros, le MES, c'est un FMI européen. En l'occurrence, ici, et c'était le point de conflit entre certains États membres, les capitaux qui passeront par ces caisses et qu'il prêtera aux États se feront sans contrepartie de réformes, mais avec un taux d'intérêt à 2%. Mais pour les réformes, vous inquiétez pas, il y a la Commission européenne. Bon, vous l'avez compris, tous les fonds viendront des marchés financiers et nos trois organismes auront pour objectif de les rembourser avec les taux d'intérêt fixés au préalable, aux dépens des dettes publiques qui vont continuer d'exploser. Conséquence, une pluie diluvienne de politiques d'austérité dans les années à venir, rien à voir avec celle de l'après 2008, plus violente, plus brutale. C'est pas ça qui va nous rajouter des lits dans les hostos. On va avoir du taf, les amis. Beaucoup, beaucoup de taf.
On va maintenant écouter le morceau Outer Road de Categoric.
Conscient, je suis conscient de se rapper, de m'élever dans les airs, on ne peut déraper. D'ailleurs, la plupart du temps, je ne sens pas mes pieds sur scène sans les joues, des terres sans prendre de genoux. Tous m'appelleront la bombe H. Je suis faite de lithium, légère sans attache. Bread love, la came bishop, de big shop. Pour la positivité, c'est dingue. Les planètes s'alignent, mes rêves m'étreignent. Je suis en quête de réponse, t'es en quête de défense. Car dans ma tête, je l'énonce. Toi, dans ta tête, c'est le Bronx. Pas de limite à ma foi, pour moi, le destin est une évidence. Si tu lâches le vase, t'étonnes pas qu'il se brise dans le silence. Dominance totale, obsession pour l'abondance. Get the fuck up, sur ma piste c'est pas pour ça qu'on danse. La Corée est connue partout de BX à Corée. Baisse le rythme.
circulaire, l'annulaire et le pouce, on va décoller. Believe, believe, and turn up, turn up. Pick up them lions after road, them I run. Mister, we leave, we leave, freedom. Out the road, out the Babylon, run, out the Babylon. Believe, believe, and turn up, turn up. Pick up them lions after road, them I run. Mister, we leave, we leave, freedom. Out the road, out the Babylon, run, out the Babylon. No bad vibes dans mon secteur. Virus transmissible, mon son est vecteur. Ouvert sur le monde, on n'est pas sectaire. Ils flippent de nous voir ensemble, ça perturbe leur sphincter. Beaucoup me ressemblent mais veulent me faire taire. Mais le fait est que vérité fait peur. Je préfère être seul à me comprendre comme une autiste que d'être perdu dans ma vie si j'ai pas de notice. Hein, où est le sens quand on pense qu'il n'y a plus aucune chance à l'existence, à part quand on dépense. Folie brûlante, corps en incandescence. Je suis comme Yaya Touré, je dois gérer le jeu depuis le centre. Entre mes cultures, je suis propre pour zigzaguer. Ma place est là où je veux, mon âme est au zaguer. Je suis le yin et le yang, moi-même et mon adversaire. C'est le reflet du monde que je décris dans chaque verset. Believe, believe, and turn up. Pick up them lions out the road, them I run. Mister, we leave, freedom. Out the road, out the Babylon, run, out the Babylon. Believe, believe, and turn up. Pick up them lions out the road, them I run. Mister, we leave, freedom. Out the road, out the Babylon, run, out the Babylon. Believe, believe, and turn up. Pick up them lions out the road, them I run. Mister, we leave, freedom. Out the Babylon, run, out the Babylon. Believe, believe, and turn up. Pick up them lions out the road, them I run. Mister, we leave, freedom. Out the road, out the Babylon, run, out the Babylon. Catégorique n'est pas là pour le moment. Je la remplace. Out the road, out the, out the, out the, out the, out the road. On m'appelle Kunta Kita. Là on brûlé. Yeah. Out the road, out the Babylon. Vibes. Out the road, out the Babylon. Vibes. Out the road, out the Babylon. Run.
On est toujours sur Radio Canu 102.2. Vous écoutez le Canu Info du lundi. Vous venez d'entendre Outer Road de Catégorite et on enchaîne avec le National avec notre premier sujet sur l'état de droit et les détentions provisoires qui ne le sont plus tellement.
On a déjà parlé ici de la situation dramatique des détenus face au Covid-19 qui sont entassés les uns sur les autres dans des prisons surpeuplées où le risque de contagion est extrêmement élevé et où l'accès aux soins est difficile. On rappelle d'ailleurs que la Cour européenne des droits de l'homme a de nouveau condamné la France pas plus tard que le 30 janvier 2020 pour les conditions inhumaines et dégradantes de ces prisons, liées notamment à la surpopulation carcérale. Au 1er janvier, on comptait environ 71 000 détenus pour 61 000 places, donc 10 000 de trop. Sachant que même s'il y avait officiellement autant de places que de détenus, ils seraient quand même très nombreux à être plusieurs par cellule, courant donc un grand risque de contamination au Covid-19. Notamment dans les maisons d'arrêt, prévues pour les détenus provisoires en attente de procès, les détenus condamnés à de courtes peines et ceux condamnés à de longues peines en attente de transfert. On aurait pu penser qu'avec les nouveaux risques d'épidémie et la dégradation des conditions de détention, puisque pour limiter la propagation, les détenus n'ont plus le droit ni au parloir ni aux activités habituelles, l'État commencerait à vider un peu ses prisons surpeuplées, comme ça a été fait dans plusieurs pays. On avait même un peu d'espoir avec une ordonnance qui a simplifié la libération de détenus arrivant en fin de peine, aboutissant à la libération anticipée d'un ou deux mois d'environ 6 000 d'entre eux. Mais pendant ce temps, des personnes continuent à être incarcérées, par exemple pour infractions réitérées au confinement. Et surtout, l'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'adaptation des procédures pénales est venue prolonger les délais maximum de détention provisoire de 2, 3 ou 6 mois, selon la gravité des infractions. Les détenus provisoires représentent un tiers des détenus en France, environ 21 000 personnes en tôle qui ne sont pas encore passées en procès et n'ont pas encore été jugées coupables. Triste record européen du taux de détention provisoire détenu par la France aux côtés de la Roumanie. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, déclare dans les médias que les détenus provisoires sont dangereux, présentent des risques de nouveaux passages à l'acte, de pression sur les victimes ou encore de destruction de preuves. Mais qu'on ne s'y trompe pas, un grand nombre d'entre eux sont surtout victimes d'un système répressif de classe qui considère toute personne privée de domicile fixe et de revenus stables comme déjà quasi condamnée, présentant un risque de fuite et à enfermer le plus vite possible. Ça ne s'arrête pas là, puisque Nicole Belloubet a fait passer le lendemain une circulaire qui prévoit que toutes les détentions provisoires sont prolongées automatiquement et de plein droit. Normalement, tous les 4 mois pour les détenus accusés de délit et tous les ans pour les détenus accusés de crime, la loi prévoit un passage devant le juge des libertés et de la détention qui peut mettre fin à la détention provisoire. Ça, c'était avant la circulaire, plus en temps de Covid-19. Cette circulaire permet donc de maintenir un maximum de personnes en tôle pendant au moins toute la durée du confinement, sans contrôle par aucun juge ni avocat de leur situation, tout en violant une bonne quantité des libertés fondamentales censées être garanties par la justice, comme la présomption d'innocence ou encore le droit à un procès équitable. À noter qu'un premier recours contre cette circulaire a été rejeté par le Conseil d'État, mais que plusieurs associations et avocats ont prévu de revenir à la charge pour tenter de la faire annuler.
On enchaîne avec une étonnante info, une fille de 5 ans touchée par un tir de LBD-40 dans les Yvelines.
Oui, donc, une jeune fille de 5 ans a été blessée à la tempe par un tir de LBD à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, samedi 4 avril. Et en une semaine, la communication des forces de l'ordre et le ministre de l'Intérieur se sont attelés à diffuser leur version des faits et à dénigrer toute version qui pourrait suggérer que la police est dangereuse et qu'elle ne ferait que peu de cas de blessés une certaine partie de la population. On le sait, il ne faut pas se contenter de cette version, alors voici un retour sur les faits avec quelques détails assez peu diffusés dans la presse. Alors, dans l'après-midi, 6 policiers interviennent à la cité de la Noé pour, selon leur dire, mettre fin à un rodéo. Et puis aussi apparemment pour interpeller une personne sous le prétexte d'une moto volée. Cette interpellation semble avoir provoqué un élan de solidarité et une résistance, puisque plusieurs jeunes semblent avoir voulu chasser la police. Leur acte a été décrit comme un guet-apens dans plusieurs médias, et c'est malhonnête d'utiliser ce terme, qui insinue que des habitants de la cité essaient d'attirer la police pour pouvoir s'en prendre à eux. Ce qui est bien différent que de réagir à une arrestation quand on a l'habitude de subir ou d'être témoin de violences policières. À noter que l'interpellation a bien eu lieu, que la personne concernée a dû subir une garde à vue et qu'il s'est avéré que son véhicule n'a pas été qualifié de volé. Par contre, la personne a reçu une ordonnance pénale pour refus d'obtempérer. Bref, au moment des affrontements, les policiers ont tiré, et c'est eux qui le déclarent, une grenade lacrymogène, 8 grenades de désencerclement et 14 tirs de LBD. Le même jour, à la même heure, au même endroit, une jeune fille de 5 ans se trouvait en bas de son immeuble et reçoit un projectile qui lui cause un traumatisme crânien. Son père trouve et récupère une balle de LBD. Le lendemain, des policiers viennent à l'hôpital pour la récupérer. Alors le lien semble évident. Je n'ai pas trop de raison de douter du fait que cette fille a bien été touchée par un LBD tiré par la police, mais le syndicat Alliance, le syndicat UNSA Police et la préfecture n'ont pas la décence de le reconnaître. Pour eux, la jeune fille était trop loin et il est impossible que ce soit un LBD qui l'ait touchée. La procureure de Versailles va jusqu'à affirmer dans Le Parisien qu'on ne peut pas lier sa blessure aux échauffourées. La seule certitude, c'est que ça a eu lieu dans un temps concomitant. Fin de la citation, et donc là c'est moi qui le rajoute, c'est un temps concomitant et puis aussi au même endroit. Le père donne pourtant une distance différente, et jusqu'à preuve du contraire, seuls les policiers sont équipés de LBD. Il est quand même plus probable que la police et la préfecture cherchent à couvrir cette énorme bavure, plutôt que ce soit le père, dont la fille a quand même une fracture crânienne, et qui a ramassé la balle à côté de sa fille, qui mente. Bref, encore une violence policière qui risque d'être enfouie et qu'on nous fasse oublier. Pour finir ce sujet, je vous recommande le documentaire « À nos corps défendants » réalisé par Yann B. du collectif Désarmons-les, dont une avant-première sur YouTube a été diffusée le 4 avril et qui est prévu d'être rediffusée. Il documente plusieurs cas de violences policières graves et la façon dont elles ont été cachées et dont les familles des victimes ont été harcelées. Un très bon exemple des raisons pour lesquelles il n'est pas évident pour tout le monde de se soumettre à une interpellation.
Et on continue avec les violences policières en allant du côté de Béziers cette fois-ci.
Ouais, alors vous avez forcément entendu parler de cette sale histoire. Mohamed Emli Gabzi, père de 3 enfants, soit dit en passant, est mort suite à son interpellation par la police municipale à Béziers. Alors à Béziers, vous le savez forcément, c'est Robert Ménard, gros facho notoire qui la dirige depuis 2014 et qui a d'ailleurs été réélu dès le premier tour aux élections municipales de cette année. Donc il est maire encore pour 6 ans. Il est islamophobe, homophobe, misogyne, raciste, tout ce que vous voulez. Dès qu'il est arrivé au pouvoir de la mairie de Béziers, il a renforcé l'armement et les pouvoirs de la police municipale. Robert Ménard, c'est aussi, dès 2014, un arrêté municipal instaurant un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, de 23h à 6h en période estivale dans tout l'hypercentre de Béziers. La liste est très longue, mais ce qu'on peut dire, c'est que Ménard, les couvre-feux, eh ben, il adore ça. Dès le 17 mars 2020, il en instaure un de 22h à 5h pour tout le monde. Il passe dans tous les grands médias pour assumer qu'il faut en étendre absolument partout, en instaurer absolument partout. Bah ouais, les couvre-feux, c'est très pratique quand t'es SDF et que t'as pas de logement. Alors on y est, mercredi dernier, Mohamed Gabzi, présent dans la rue, car sans domicile fixe, après le couvre-feu, se fait emmerder par la police. Une vidéo montre une interpellation particulièrement violente, où on l'entend crier et contester. À son arrivée au commissariat, il est inconscient. 45 minutes après, il est déclaré mort par un médecin urgentiste. Tranquille, les flics et le proc expliquent qu'un policier s'est assis sur ses fesses dans le but de le maintenir jusqu'à sa conduite au commissariat, car il était encore trop excité. Je cite, il se serait alors calmé et se serait mis à ronfler, donc dormir. Sauf que la vérité, c'est qu'une fois de plus, les flics ont utilisé la technique du plaquage ventral pour l'immobiliser et que comme Cédric Chouvia en janvier dernier ou Adama Traoré en 2016, eh ben, il est mort. Les flics de Béziers ont tué Mohamed Gabzi mercredi dernier car il ne respectait pas le couvre-feu alors qu'il était SDF. La boucle est bouclée. Encore une fois, messieurs de la police et Robert Ménard, on n'oubliera pas et on pardonnera jamais ce que vous avez encore fait.
Et une nouvelle un peu plus enthousiasmante, la réquisition d'un McDo.
Nous allons maintenant parler d'une belle action de réquisition qui a eu lieu dans le 14e arrondissement de Marseille, où d'anciens salariés du McDonald's de Saint-Barthélemy ont investi les locaux de la chaîne fast-food, qui était en liquidation judiciaire depuis décembre dernier, afin de les utiliser comme lieu de stockage de nourriture, destiné donc à être redistribué aux plus précaires. Effectivement, soutenu par plusieurs collectifs et associations, comme le syndicat des quartiers populaires de Marseille, des salariés qui s'étaient battus pour ne pas perdre leur travail ont investi la fameuse enseigne pour la transformer en lieu donc de redistribution à destination des plus précaires. Malgré le refus de la chaîne qu'on utilise ces locaux, c'est maintenant 3 fois par semaine qu'on peut venir y chercher des colis alimentaires qui sont composés de produits de première nécessité, difficilement accessibles pour ceux et celles qui sont les plus démunis. Cette réquisition s'inscrit dans la continuité d'une lutte syndicale assez féroce pour une défense d'emploi. Et le lieu est désormais donc réapproprié comme un lieu de redistribution. Ce McDonald's, qui était donc abandonné dans les quartiers nord de Marseille, est devenu l'emblème d'une solidarité concrète, réelle, qui permet à de nombreuses personnes, oubliées par les services de l'État, de manger à leur faim.
On enchaîne avec un sujet sur le gouvernement qui se prépare tranquillement mais sûrement à être massivement poursuivi en justice.
Cela n'échappe à personne. La gestion de la crise par l'État est catastrophique. La pénurie de masques en étant l'exemple le plus évident. Le gouvernement en a bien conscience, et c'est pourquoi il prépare avec beaucoup d'attention l'après-crise et les multiples poursuites qui vont être lancées à son encontre. Actuellement, les différents services et ministères de l'État préparent avec beaucoup d'attention les argumentaires nécessaires dans la perspective des futures commissions d'enquête. Le tout étant de ne pas être le service accusé des défaillances dans la gestion de la crise sanitaire. Mais le gouvernement vient de pousser la logique encore plus loin, puisque le 29 mars a été décidé par décret de mettre en œuvre, pour une durée de 2 ans, un traitement automatisé de données à caractère personnel dans la justice. L'objectif final est la mise en place du système algorithmique nommé DataJust. Alors, pour être plus clair, en fait, il s'agit d'un système automatisé chargé de calculer les préjudices des victimes dans les affaires de justice. Un barème qui normaliserait et automatiserait le calcul des sommes que pourraient toucher les victimes. En gros, à partir de décisions rendues en appel en 2017 et 2019, le logiciel s'appuierait sur 41 critères, comme l'âge, la situation familiale, le type de dégâts, et dont il aurait ensuite la charge d'extraire les données pertinentes, puis, avec un appui humain, de construire un référentiel indicatif d'indemnisation. Alors, outre les nombreux biais dans la collecte des données et leur traitement, mais également l'opacité des algorithmes, ce système y pose le problème d'uniformiser les indemnités, et donc de rendre les décisions de justice prédictibles. Et vous voyez où est le problème, non ? En pleine crise du coronavirus, ce système permettrait à l'État d'anticiper le montant des indemnités à verser pour ses manquements. Donc, comme l'a déclaré l'avocat Hervé Gerbi à France Bleu, en fait, c'est une façon de substituer l'intelligence du juge par une intelligence artificielle. Demain, certains iront demander des comptes pour toutes les questions liées au Covid-19. S'ils aboutissent dans leur procédure, on leur dira ceci. Décès d'un parent, 9000 euros. Alors, on ne peut pas être sûr à 100% des intentions du gouvernement. Peut-être c'est juste un problème de timing. Mais en tout cas, ce décret interroge beaucoup. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les assureurs privés défendent depuis longtemps les barèmes fixes. C'est un moyen efficace pour anticiper les pertes possibles dans les contrats d'assurance. Mais sur le plus long terme, la mesure sera encore plus grave. Elle permettra de prendre des politiques administratives en prenant en compte les conséquences en termes d'impact indemnitaire. C'est-à-dire que demain, loin de tirer des leçons de la crise en cours et renforcer drastiquement les moyens de la santé, le pouvoir pourrait anticiper les pertes en justice d'une nouvelle crise sanitaire et continuer gentiment à privatiser notre système de santé.
Et maintenant un sujet sur la grève des éboueurs à Poitiers.
Oui, on le répète chaque lundi, mais cette pandémie est un véritable révélateur des inégalités de classe, genre et race, et elle montre plus que jamais que les vies des uns et des autres n'ont pas la même valeur. Ce sont celles et ceux qui sont déjà les plus exploités qu'on envoie aux turbins au péril de leur vie. Le gouvernement, qui semble prêt à imposer le port du masque pour toutes et tous, n'est toujours pas en mesure de protéger celles et ceux qu'elle contraint à aller travailler. Alors, les éboueurs, en première ligne, n'échappent bien évidemment pas à cette cynique politique. Jeudi matin, donc, les Reapers d'Urbazer, un sous-traitant qui s'occupe de la collecte des déchets à Poitiers, ont donc entamé un mouvement de grève. Alors attention, spoiler, bien vite arrêté grâce aux velléités du maire socialiste de Poitiers. Alors revenons d'abord aux revendications des éboueurs. Depuis l'annonce du confinement, leur patron les a mis en chômage partiel puisque l'agglo a demandé la collecte des déchets seulement une semaine sur deux. Conséquence pour les salariés, ils sont en chômage partiel avec une perte de revenus de 16% et ils se tapent des tournées de malades, plus de deux fois le tonnage habituel, puisque les déchets ménagers augmentent du fait du confinement et que le ramassage n'est assuré qu'une semaine sur deux. On imagine les conséquences pour le dos des Reapers déjà fort sollicités en temps normal, avec toutes les blessures et maladies professionnelles qui en découlent. Masques, gants, protection et gel manquent bien évidemment. Ils demandent enfin d'avoir droit à la prime spéciale Covid-19 puisque pour le moment, leur direction ne répond à aucune des sollicitations. Alors jeudi, ils étaient 44 des 58 Reapers en grève, mais c'était sans compter l'intervention du maire et président de l'agglomération, Alain Claeys, donc qui est socialiste et qui a immédiatement demandé à la préfecture de réquisitionner des salariés. Face à cette menace, les éboueurs n'ont eu d'autre choix que de retourner au charbon. Mais on n'oublie pas, on ne pardonne pas votre machine infernale qui nous envoie toutes et tous à la mort.
Et maintenant, pour finir le national, quelques nouvelles de La Poste.
Jeudi 9 avril, la direction de La Poste, assignée en justice par le syndicat Sud-PTT, a été contrainte de réaliser dans les plus brefs délais une évaluation précise des risques professionnels liés à l'épidémie de Covid-19. Cette évaluation doit comprendre, je cite, le recensement de l'ensemble des activités postales estimées essentielles et non essentielles à la vie de la nation, ainsi que les conditions d'exercice liées à l'épidémie de Covid-19 des divers métiers et emplois des activités postales essentielles à la vie de la nation. Ainsi, après 4 semaines de confinement, La Poste se retrouve donc enfin contrainte d'évaluer sérieusement les risques pour ses salariés et va sûrement avoir des comptes à rendre sur le fait d'avoir continué la distribution de produits non urgents mais qui lui rapporte du profit, comme des colis classiques. Alors, une décision de justice qui va probablement créer un précédent aussi, et qui ouvre la voie à d'autres décisions similaires. Hein, on pense en particulier aux géants de la grande distribution, de la distribution en ligne, comme Amazon. Hein. Une telle décision permettrait de pointer au grand jour les graves manquements et la mise en danger de la vie de ses salariés par la multinationale. Alors, autre avantage de l'affaire, hein, elle aura permis aussi de dévoiler que La Poste gardait très discrètement depuis le début de la crise un stock de 24,5 millions de masques de protection constitués durant l'épidémie de H1N1. Des masques que la grande majorité des postiers déclarent n'avoir jamais vus. En effet, selon syndicat Sud-PTT, la DRH de La Poste, Valérie Decaux, aurait déclaré « Nous n'avons pas intérêt à ce que cela se sache, car si nous sortons le chiffre, nous risquons de nous faire réquisitionner. » Depuis, la direction a amorcé un gros rétropédalage et dément bec et ongles ses accusations. Dans tous les cas, si les faits sont réels, cela ne serait pas une surprise, tant depuis sa privatisation en 2005, La Poste a su montrer comment elle place le profit avant la santé de ses salariés.
Maintenant, on passe tout de suite au local avec un entretien avec un infirmier psy à Saint-Jean-de-Dieu.
Alors, du coup, moi, c'est Badis. Je suis infirmier en psychiatrie depuis un peu plus de 3 ans. Et je travaille à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon 8e. Je travaille habituellement dans un service du HCD. Donc, c'est un service d'hospitalisation de courte durée, où on fait l'accueil de la crise psychique, l'évaluation et l'orientation des patients en crise. C'est ce service-là qui a été choisi pour devenir l'unité Covid, où on accueille les patients qui sont contaminés. En fait, c'est des patients de psychiatrie qui dépendent de l'hôpital, mais qui sont atteints du Covid-19.
Et vous avez eu beaucoup de cas ?
Non, alors pour l'instant, nous, on a 3 patients dans le service. On est relativement préservé en fait en psychiatrie pour l'instant. Je crois qu'au Vinati, ils ont 5 cas chez les patients. En fait, après, nous, on accueille que les patients vraiment positifs. On a aussi une unité qui a ouvert récemment là, à côté, et qui est une unité un peu SAS, où tous les patients qui sont admis sur l'hôpital, ils sont accueillis là-bas, et en attente du diagnostic, en fait. Ils sont testés, et ils sont là-bas en isolement. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que maintenir l'isolement pour des patients en pleine crise psychique, c'est parfois compliqué. Et puis, il y a aussi la fiabilité des tests. On sait qu'il y a 30 à 40% de faux négatifs. Du coup, on a des patients qui sont testés négatifs, mais qui ont des symptômes, ou qui ont été en contact avec des personnes qui l'ont eu. C'est un peu le flou artistique par moment à ce niveau-là.
Et les 3 patients que vous avez dans l'unité, ils sont, enfin, ils vont comment ?
Pour l'instant, ils sont plutôt stables, en fait. On n'a pas des formes graves, donc espérons que ça dure, parce que du coup, on est quand même moins équipé qu'un service de réanimation. On ne peut pas faire de réanimation du tout. On peut les surveiller, on a quelques équipements, on a de quoi se protéger et les protéger. Mais si jamais leur état se dégrade, ce sera pas gérable. Donc, il faudra qu'on les mute dans des services de réanimation. C'est une unité de 10 lits. Et en fait, après, l'idée, c'était vraiment d'essayer de limiter au maximum la contamination au sein de l'hôpital et du coup, d'isoler ces patients qui sont porteurs du virus.
Ok. Et niveau matériel de protection, vous avez quoi ?
Alors déjà, tous les patients sont isolés en chambre. Il n'y a aucune sortie de chambre, aucune visite. Nous, on a des surblouses, des masques chirurgicaux qu'on change toutes les 4 heures, ce qui n'est pas le cas sur tout l'hôpital, parce que du coup, on est entre guillemets un peu favorisé étant donné qu'on est dans ce service-là. Des gants, des surblouses aussi en plastique pour les soins un peu plus proches du patient, un peu plus invasifs. Des lunettes de protection, des charlottes et des masques FFP2 qui sont réservés vraiment aux soins invasifs. Proche du patient et quand le patient n'est pas capable de porter un masque lui-même. Parce que, en fait, les patients ont des masques chirurgicaux qu'on leur donne aussi. Et quand on rentre dans la chambre, nous, on met notre masque, eux aussi. Et du coup, ça protège à partir du moment où on n'est pas trop proche.
Tu dirais que dans l'ensemble de Saint-Jean-de-Dieu, ça change des choses, l'épidémie, le confinement ?
Oui, ça change énormément de choses. Ça change déjà. Alors, il y a eu beaucoup de mouvements dans les équipes. On a été, pour la plupart, catapultés dans d'autres services du jour au lendemain. Et en même temps, il fallait quand même réagir vite et se préparer. Il y a ça, il y a la pratique qui change beaucoup. Parce que nous, si on est des infirmiers, on a le même diplôme que tous les autres. C'est vrai que dans notre pratique habituelle, on n'a pas l'habitude de gérer ça. Il y en a certains, même beaucoup, qui ont fait des petites formations sur Internet pour essayer de se remettre un peu dans le bain. Des soins somatiques, il y a eu des protocoles qui ont été mis en place par rapport au circuit du linge, par rapport à l'habillage des habillages, par rapport à tout un tas de choses, la réorganisation des soins, parce que c'est pas du tout la même manière de travailler dans un service de psychiatrie et dans un service avec un haut risque infectieux. Après, pour les patients, ça change aussi pas mal, parce que du coup, les sorties dans le parc sont interdites, elles sont possibles, mais organisées avec une présence soignante, et elles sont très, très restreintes. Il n'y a plus de visites pour les patients, donc c'est un peu compliqué aussi à ce niveau-là. Les patients en psychiatrie, on sait que, en général, ils ont besoin de déambuler, ils ont besoin de sortir, de fumer des cigarettes. Enfin, c'est des choses qui leur permettent aussi d'apaiser leurs tensions internes, leurs angoisses. Et du coup, là, on est quand même moins en contact au niveau de la réassurance qu'on peut leur apporter, la contenance. Donc, pour l'instant, ça tient. On n'a pas forcément plus d'entrées ou de sorties de l'hôpital. Niveau de l'activité, ça va. Mais pour l'instant, quoi, on appréhende un peu tout ce que ça peut donner sur le long terme et l'après-coup aussi de cette crise. Parce que du coup, il y a aussi tous les patients qui sont pas hospitalisés en ce moment, qui sont chez eux, qui ont moins de soins à l'extérieur. En fait, il y a des structures qui sont rattachées à Saint-Jean-de-Dieu, donc les CMP, les hôpitaux de jour. Les CMP, c'est les centres médico-psychologiques, qui sont des centres de consultation pour les patients. Donc tout ça, c'est un étayage qui est hyper important pour le maintien des patients à l'extérieur. Et là, c'est de plus en plus pauvre au niveau de l'étayage. Du coup, pour l'instant, on voit pas encore les répercussions, mais c'est vrai qu'on appréhende un peu pour la suite, quoi. Le contre-coup. Les patients, les syndromes un peu anxio-dépressifs, qui sont repliés au domicile, qui sont un peu désocialisés aussi, qui voient moins de monde. On ne sait pas ce que ça va donner sur le plan psychiatrique.
Et Question bonus, t'en penses quoi des applaudissements à 20h?
Eh ben, je pense que c'est un geste qui peut paraître louable. Après, je pense que c'est un peu naïf, dans le sens où en fait, la lutte au niveau des soignants, elle date pas d'hier. Ça fait un an, je crois que le 18 mars ou le 17 mars de l'année dernière, ça commençait les manifestations. Il y en a eu plusieurs dans l'année, avec des revendications, des demandes de moyens à l'hôpital, et ça n'a pas été entendu. Et aujourd'hui, bah, la crise fait que toutes les failles et tout ce qu'on demandait, c'est en train de tout ressortir au grand jour. On voit bien que du coup, il y a des manques. Et le fait d'être propulsé un peu au devant de la scène comme des héros, c'est un peu nous dire aussi, bah, vous n'avez pas le droit d'avoir peur, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, merci à tous. Et voilà, continuez ce que vous faites. Donc c'est bien, ça fait chaud au cœur quand même. Hein. Mais voilà.
Tu veux ajouter quelque chose?
Ouais, bah du coup, je souhaite bien du courage à tout le monde, tous ceux qui travaillent, notamment sur l'hôpital. J'ai une pensée particulière pour les équipes de nuit aussi, parce que c'est vrai que de base déjà ils sont quand même un peu isolés et en ce moment particulièrement.
Ok, très bien. Bah merci beaucoup.
On n'a pas de souci.
Et toujours en local, on écoute tout de suite une interview sur les difficultés rencontrées par une équipe du médico-social.
Est-ce que tu veux bien te présenter un peu et présenter ce que tu fais, s'il te plaît?
Ouais, alors du coup, moi je m'appelle Boris, je suis médecin actuellement à la PASS de Saint-Luc-Saint-Joseph. La PASS, c'est la permanence d'accès aux soins de santé. Là, en fait, ce qui est arrivé récemment, c'est que notre passe, celle de Saint-Luc-Joseph, a fermé depuis le début du Covid pour réorienter l'activité vers une équipe sanitaire mobile. C'est une demande qui vient du gouvernement, en fait, de l'ARS au niveau régional, donc l'Agence nationale de santé, mais plus généralement, c'est des choses qui se mettent en place sur toute la France. L'idée, en gros, c'est... ce qui nous est demandé à la base, c'est le fait d'aller évaluer les patients Covid, les patients du coup suspects de Covid dans les centres d'hébergement, à la rue ou dans les squats, et de pouvoir proposer une solution d'hébergement en fait pour les gens qui sont non graves, c'est de leur proposer des centres qui s'appellent les centres de desserrement et qui sont en fait des centres d'hébergement le temps de la maladie, à la fois du coup pour permettre aux gens de pas passer leur maladie à la rue ou dans un centre d'hébergement, mais surtout pour diminuer la contagion des gens dans les centres d'hébergement ou à la rue. Complètement est très très compliqué en ce moment à cause de la fermeture, bah, par exemple des casos de Médecins du Monde, de tous les accueils de jour. Enfin globalement c'est beaucoup de gens qui se retrouvent éloignés du soin, voire même de tout type de contact humain pour certains, beaucoup beaucoup plus dans la merde que d'habitude.
Bah, est-ce que du coup tu peux faire un petit état des lieux de la situation propre à Lyon?
En gros, à Lyon, dès avant même le confinement, par exemple, les centres d'accueil de jour pour les SDF avaient fermé. Au moment du confinement, les casos et toutes les missions de Médecins du Monde ont également fermé. Du coup, tout ça était plus disponible d'un seul coup. Après, il y a des choses qui progressivement sont un tout petit peu remises en place, mais ça reste un dispositif qui est bien bien inférieur à d'habitude. Actuellement, il y a des places d'hébergement qui ouvrent. D'après la DDCS, il y en aurait à peu près 500 places qui auraient ouvertes depuis le début. Mais sachant que du coup, c'est bien bien moins que ce qu'il faudrait en réalité.
Du coup, par rapport aux moyens que vous avez vis-à-vis de votre mission, globalement, c'est largement insuffisant.
Ouais, disons qu'ils ont fait vraiment le strict minimum, parce qu'en fait, nous, en fait, l'Agence nationale de santé, finalement, a mis, pour l'équipe mobile, a mis zéro argent, parce qu'en fait, ils fonctionnent uniquement par bénévolat, c'est-à-dire que, moi, je travaille à la PASS, mais habituellement une journée et demie par semaine, par exemple, le reste, c'est du bénévolat, il y a à peu près, je dirais, je crois, 25 bénévoles médecins infirmiers qui viennent, du coup, soit de Médecins du Monde, soit de l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph, soit d'autres structures, qui viennent en renfort, mais de manière complètement bénévole. Il y en a une qui est à plein temps, là, de manière complètement bénévole. Et la plupart, du coup, donnent une, deux, trois journées par semaine, complètement bénévolement. Et en fait, il faudrait énormément de structures d'hébergement. Il faudrait beaucoup, beaucoup plus pour répondre à la demande réelle et faire vraiment quelque chose. En fait, là, on fait du contact et on permet, du coup, d'organiser les choses vers les transports d'hébergement, mais c'est carrément insuffisant. Ouais.
Et selon toi, du coup, le contexte actuel, est-ce qu'il est révélateur d'une situation globale, comme tu disais?
Oui, bah effectivement, moi je pense que finalement la crise elle est révélatrice en fait de pas mal de, enfin en fait en tout cas elle met en lumière des problèmes qui étaient déjà existants avant, à savoir les squats où ils sont, par exemple je pense notamment un squat de Lyon où ils sont quasiment 400 à vivre à 30 par chambre, un autre endroit au Mas du Taureau où il y a un camp où ils sont une soixantaine de personnes, des familles vivent dans des tentes avec un accès à l'eau qui est à 80 mètres. Finalement, en fait, ça révèle des choses qui vont prendre une ampleur, qui potentiellement peuvent prendre une ampleur encore plus difficile avec la crise. Mais en fait, ça montre le fait que déjà l'État a abandonné déjà ses populations et qu'en fait, c'est des choses qui auraient dû être faites bien en amont de la crise sanitaire. Et qu'en fait, maintenant, ils n'offrent pas de solution, mais finalement, c'est dans la continuité de ce qui était déjà pas à l'époque, quoi.
Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose dans la politique de l'État après la crise?
Bah, je pense que si on se mobilise pour et si on arrive à saisir ça au vol pour dénoncer ça, oui. Sinon, je pense que eux de même, actuellement, ils nous montrent bien que quelque part, ils font vraiment le strict minimum. En fait, pour que ça sorte pas dans la presse, ils font le strict minimum pour que devant les médias, ils aient une bonne figure. Finalement, ils font comme ce qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire de la communication. Quand ils ont ouvert le centre, ils ont créé deux centres, la proche de Lyon, ce qu'ils appellent des centres de desserrement, à Belleville et à Saint-Péral. La sous-préfète était au centre de Belleville pour couper le ruban rouge devant les journalistes. Et le soir même, il n'y avait toujours pas de patients dans le centre parce que les transports de la Croix-Rouge n'avaient pas encore été financés. Ils ont été financés que deux jours plus tard.
Et si l'État, là, en deux semaines, il est capable d'ouvrir un certain nombre de centres dans l'urgence, est-ce que tu penses que... Pourquoi il ne le fait pas d'habitude?
C'est une bonne question. Moi, personnellement, après, c'est mon avis personnel, mais je pense que le maintien d'une forme de précarité a un intérêt d'un point de vue politique. Et c'est un intérêt d'un point de vue de maintenir les gens dans la peur, dans... Bah, je pense que oui, c'est une question compliquée, mais ils répondent pas à ces demandes, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais parce qu'il y a une structure qui veut ça aussi.
On remercie donc Boris de la passe de Saint-Luc-Saint-Joseph d'avoir répondu à nos questions. Et avant la fin de cette émission,
on passe tout de suite au traditionnel agenda.
Alors, comme depuis un moment, pas vraiment d'agenda, puisqu'il n'y a plus grand-chose à faire. Mais on vous signale quand même que le monde diplomatique met en ligne tous les mois des lectures, donc des fichiers audio de ces articles qui sont accessibles en intégralité à leurs abonnés, mais dont chaque mois, deux ou trois sont en accès libre et ça permet donc d'écouter un peu de presse de qualité si vous faites partie des gens qui ne peuvent accéder qu'à la presse gratuite. Et vous pourrez par exemple écouter l'excellent article de Sonia Chat intitulé « Contre les pandémies, l'écologie », qui était dans le numéro du Monde diplomatique de mars et qui parle des sources des pandémies.
Et on arrive donc à la fin de ce Canu Info du lundi. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle et la plus confinée des radios sur le 102.2. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles infos.